Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité. Il est 10h, donc l'heure de délibérer avec nous. Alix est à la technique et moi-même, nous sommes heureuses de vous retrouver pour notre dernière émission avant les congés d'été. Et oui, pour clore cette saison donc, de débat en notre compagnie, nous tenions à revenir sur un épisode douloureux, on va dire, mais dont il faut bien parler, à savoir le meurtre de Naël, abattu par un policier le 27 juin dernier. Entendons-nous, Naël n'est pas le premier, et malheureusement, tant que l'institution policière reste ce qu'elle est, à savoir un incubateur du racisme d'extrême droite, Naël ne sera sans doute pas le dernier. Et ça, évidemment, les personnes racisées des quartiers populaires le savent depuis longtemps. Aussi, les émeutes qui ont suivi la mort du jeune homme n'étonnent que notre cher président, qui, à court d'arguments, préfère accuser les jeux vidéo d'avoir provoqué cette situation. Évidemment, nous allons revenir sur cet épisode donc, caractéristique des violences policières à la française, dirons-nous. Nous allons aussi et surtout nous intéresser à la répression judiciaire et à l'anti-répression judiciaire. Pour ce faire, nous avons invité Charlotte. Bonjour.
Salut.
Charlotte.
Salut.
Merci d'être venue. Tu as bien voulu passer donc ce petit bout de matinée en notre compagnie pour nous parler de ton expérience militante, on peut dire. Donc particulièrement ces 3 semaines passées à l'occasion donc, des soulèvements qui ont eu lieu en banlieue. D'abord, j'aimerais te demander en quoi consiste ton engagement dans ce contexte.
Ouais, en fait, suite aux révoltes qu'ont suivi la mort de Maëlle, je pense qu'on a été pas mal de personnes militantes, habituées des manifs plus classiques, type mouvement de la réforme des retraites qui a précédé, à pas trop trouver notre place dans les révoltes qui avaient lieu et à se demander comment on pouvait soutenir, aider. Et du coup, il y a pas mal de groupes anti-rep en réalité qui se sont formés. Et moi, j'ai fait partie d'un groupe assez informel qui a essayé de suivre un petit peu la répression qu'a suivi les révoltes, d'assister aux comparutions immédiates, de créer du lien éventuellement avec les proches des personnes qui se retrouvaient condamnées, et aussi à essayer de transmettre un maximum de conseils par rapport aux perquisitions, aux gardes à vue, de transmettre des numéros d'avocats qui sont solidaires, qui travaillent gratuitement et qui sont habitués de ce genre de contexte. Voilà.
Donc tout un tas de choses en fait. Hein. Ouais. Je vois que votre groupe qui s'est créé quand même du coup très rapidement en fait, donc avec sur un principe d'autogestion on va dire quand même assez affiché, a rempli pas mal de missions.
Oui, alors il s'est créé très rapidement et en même temps les révoltes ont eu lieu sur une période finalement assez courte. Et du coup je pense que comme d'hab, on avait un petit temps de retard, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, on a commencé à se réunir. Et en fait, c'était déjà le moment où il y avait 1000 interpellations par jour en France et où les numéros d'avocats n'avaient pas forcément tourné en amont. Du coup, bon, effectivement, ça s'est fait rapidement, mais toujours un peu en retard.
Bah, ça, c'est le souci. On essaye de réagir à notre niveau comme on le peut, mais c'est pas forcément évident. Et tu dis, du coup, des avocats solidaires donc, qui travaillent gratuitement. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de barème de tarifs régressifs parce que c'est ce que j'ai vu dans la plupart des legal teams sur Paris ou autres.
Et bah, sur Paris, en tout cas, lors de mouvements sociaux, les avocats, avocates solidaires essayent de travailler pro bono en se rémunérant plutôt via des cagnottes et des caisses de solidarité qui sont liées au legal team, mais ils ne font pas payer leurs clients.
Ok, donc ça permet quand même d'assurer en fait la défense de ces personnes,
ouais.
Et bon, de quand même subvenir un petit peu à leurs besoins si on a quand même assez de solidarité ouais. Qui s'exprime.
On okay. Essaye en tout cas.
Et est-ce que vous avez des contacts un peu entre les legal teams ou pas du tout? Là, vraiment, ça s'est fait de manière très indépendante, autonome ou pas?
En fait, à Paris, depuis plusieurs années maintenant, il y a une legal team avec un numéro qui circule pour toutes les manifs et un groupe d'avocats, avocates qui sont reliés un petit peu par habitude. Après, là, spécifiquement pour les révoltes après la mort de Maëlle, il y a une legal team antiraciste qui s'est créée à l'échelle de la France. Il y a aussi plusieurs groupes qui sont créés, collectifs d'anti-rep dans le 93, il y a d'autres groupes qui sont mis à suivre les comparutions immédiates, donc il y a tout un tas de petits groupes qui ont essaimé par-ci par-là, ou qui sont apparus ou réapparus, et il y a des contacts en fait entre ces groupes pour se diffuser les informations. Les avocats, avocates en général travaille avec une legal team et l'autre de manière non exclusive. C'est juste différents groupes affinitaires qui se créent et qui essayent de travailler avec les mêmes avocats-avocates, parce qu'en fait, il y en a assez peu, finalement, des avocats-avocates solidaires.
Qui acceptent donc de travailler à la base sans assurance d'être payés.
Et qui sont formés à ces enjeux aussi, parce qu'il y a tout un ensemble d'enjeux. Il faut être formé au fait de garder le silence, aux enjeux de désolidarisation, à toute la répression qui vient dans un contexte d'émeute et de répression politique, vraiment.
Et ça, peux juste expliciter ce que c'est la désolidarisation?
C'est juste quand on est interpellé, par exemple, au sein d'un groupe. Est-ce qu'on choisit dans sa plaidoirie, dans sa défense en tout cas, de rester solidaire des autres personnes, éviter de les enfoncer, justifier ses faits d'une manière ou d'une autre qui va plus ou moins... De manière plus ou moins politique, en fait. Et ça se reflète, c'est un choix de défense personnelle, mais ça se reflète dans les plaidoiries des avocats. Pour donner un exemple, en comparution, la semaine dernière, il y avait une avocate qui, sur les faits qui lui étaient reprochés, défendait très bien son client, mais qui n'arrêtait pas de répéter « Mon client n'a rien fait ». Mais effectivement, les faits qui sont reprochés sont très, très graves et c'est très condamnable. Mais juste « Mon client n'a rien fait ». Et en fait, pour les personnes qui suivent et qui sont peut-être... où c'est plus facile de prouver leur implication dans ces faits, ça... c'est une forme de désolidarisation par rapport à un mouvement, parce que ça enfonce les autres vis-à-vis des juges. Voilà.
Et ça, vous le voyez sur les avocats commis d'office, plutôt ce type de tendance à inculper en fait les suivants, sans faire exprès peut-être?
Ouais, ça, souvent oui. C'est toute la question de ne pas avoir des avocats-avocates solidaires, et des avocats-avocates qui ne sont pas forcément très politisés et qui ne se situent pas en soutien du mouvement social. Avocats-avocates commis d'office, mais aussi les avocats désignés par les familles aussi, des personnes interpellées.
Ah oui, ça arrive aussi.
Ouais.
Ok, donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir été formé avant de se confronter à cet appareil judiciaire qui est quand même, qui présente certaines lacunes.
Oui.
J'aimerais quand même qu'on reparle un petit peu des émeutes. Alors, moi, j'ai une question, comment tu les appelles? Parce que, j'appelle ça émeute, j'avoue, par mimétisme. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de soulèvement, de révolte et tout ça. Je ne sais pas si vous avez un avis, toutes les deux, Alix ou Charlotte, sur ce terme, qu'on sache comment l'utiliser aujourd'hui.
Alix, tu veux...
Non, vous êtes comme moi, vous savez pas trop encore comment l'utiliser correctement. Moi, j'aime bien le terme d'émeutier parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très spontané, mais après, il paraît que ça... disons qu'il n'y a pas de connotation à revendication politique dans une émeute. Alors je vous avoue que moi, j'aime bien ce terme, mais...
Moi, je pense que j'essaie plutôt de dire révolte parce que émeute, en fait... dans certains groupes militants, c'est très bien vu de faire des émeutes, mais je pense que pour la majorité de la population, c'est quand même connoté très négativement. Et le terme émeutier, émeutière, enfin plutôt émeutier parce que c'est jamais féminisé, mais c'est le langage des journaux mainstream, c'est aussi le langage de la répression. Hein. Dans les tribunaux, ça se voyait aussi les contextes d'émeutes, etc. C'était un élément à charge, comme un contexte qui aggravait les faits. C'est vrai que ça a tendance à dépolitiser aussi le mouvement social, au sens où des émeutiers maintenant, c'est encore une fois pour l'opinion publique, je dirais, c'est assimilé aux casseurs, aux personnes violentes, aux incendiaires, aux gens qui sont en roue libre, alors que le terme révolté peut-être met plus l'accent sur le fait qu'il y a une indignation de base et il y a une réaction qui se fait à une situation qui n'est pas tenable. J'aurais tendance à dire...
Pour révolter.
Non, mais émeutier, ça va aussi. Hein.
Autant, en tant qu'à faire, autant utiliser les bons termes. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on revienne quand même un peu sur ce que ça a été, cette période-là qui a duré, 5 nuits, plus précisément. On a plusieurs médias indépendants qui ont dressé des bilans. Alors, je vais prendre des chiffres qui sont, imparfaits, mais qui sont assez représentatifs quand même. C'est en 5 nuits, du coup, de manifestations, révoltes, il y a eu à peu près 900 bâtiments incendiés ou dégradés, 4500 véhicules brûlés et surtout 30 000 personnes interpellées. Pour ça, 60% qui étaient inconnus jusqu'alors des services de police, donc c'est des personnes qui n'ont en plus pas l'habitude de se confronter à ce type de situation, qui ont été peut-être aussi emportées par la puissance du nombre et puis l'indignation en fait face à ce meurtre policier. Et qui donc très justement exprimaient leur désaccord, leur révolte, et qui se sont retrouvés réprimés policièrement déjà, puis ensuite judiciairement. On dénombre aussi un dispositif policier plutôt musclé, puisqu'on a atteint un pic de 45 000 agents mobilisés, donc l'équivalent de ce que là on a connu pendant deux jours le 14 et le 15 juillet, puisque c'était annoncé pour justement réprimer par avance ce qui pourrait être à nouveau déclenché par le défilé du 14 juillet. Et le bilan de ces donc cinq nuits, c'est aussi trois morts. Encore une fois, les enquêtes sont en cours, mais il y a quand même de fortes probabilités pour que ces personnes soient effectivement décédées à cause donc de tirs policiers, parfois perdus. Bon, ça, c'est les enquêtes qui le diront. Un homme à Marseille, un homme qui était donc à son balcon en Guyane, et un jeune poussé du toit d'un Lidl. Trois personnes qui normalement ont perdu la vie dans ces mouvements de révolte, et là surtout 400 personnes emprisonnées. Et dans ces 400 personnes, il y en a qui ont été jugées, mais d'autres qui sont aussi en attente de jugement. Et ça, c'est aussi un détail qui m'a interpellée, c'est-à-dire que pour la plupart des personnes qui vont être interpellées puis qui sont en attente de leur jugement, on les laisse, on va dire, dans une liberté soit surveillée, soit complètement libre. Et là, pour les révoltés, il n'y a pas eu du tout de souplesse sur ce temps avant le procès. Ils ont été incarcérés. On dit qu'ils sont en mandat de dépôt, c'est bien ça ?
Ils sont en détention provisoire avec mandat de dépôt, qui veut dire incarcération immédiate à la sortie de la GAV, quoi, de la garde à vue. Ouais, mais ça c'est super choquant en fait, d'autant que quand on sait, enfin, les prisons en France sont pleines, la plupart sont occupées à 200%, enfin vraiment il y a deux fois plus de personnes que de places dans les prisons en moyenne, et la question de la détention provisoire utilisée de manière massive, c'est quand même très surprenant quoi.
C'est surprenant.
Enfin, en tout cas c'est rare qu'on voit une répression d'une telle ampleur. Surtout pour des personnes qui, comme tu le mentionnais à un moment, n'ont pas de casier. C'est souvent leur premier contact avec la justice. C'est des personnes jeunes qui sont souvent bien insérées, qui travaillent, qui font des études. Donc c'est quand même assez choquant. Mais c'est pas finalement très surprenant. Enfin, Naël est mort le 27 juin et dès le 30, il y avait une circulaire du ministère de la Justice qui appelait les procureurs et les présidents des jurys à faire preuve de la plus grande fermeté en termes de condamnation, de répression. Donc, à partir de là, ouais, c'est pas surprenant qu'il y ait des mandats de dépôt qui soient tombés de manière massive.
Oui, effectivement, je pense qu'on va revenir un peu sur cette distinction qui a été faite entre des manifestants lambda qui auraient pu être arrêtés et puis ces révoltés des quartiers populaires qui n'ont pas été traités de la même façon, et donc là déjà avant leur jugement mais aussi pendant leur procès. Donc avant de revenir à cette distinction judiciaire, j'aimerais quand même qu'on tempère un petit peu nos propos gauchistes là, qui me perturbent là, depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on parle des familles, on parle des peines de prison qui ont été allouées à tort à des personnes, ou sans doute abusivement. Mais est-ce qu'on a parlé des vitrines quand même ? Parce que moi je pense que voilà, c'est important d'en parler, les familles des vitrines aussi saccagées, il faut y penser. Et donc je pense qu'on peut, avec Jam Elvis, demander ensemble justice pour les vitrines.
Justice pour les vitrines, justice pour les vitrines. Quand un Black Lives Matter, de racisme anti-blanc, compétiteur, faudrait leur foutre le nez dans la pommière pour qu'ils reconnaissent l'odeur. Du haut de leur piédestal, ils ont perdu les centres. Aucune réaction face aux violences policières, film. Mais dès qu'une manif passe un mur, justice pour les vitrines. Votre hypocrisie me fascine, me bassine. Je sais pas si la mauvaise foi te contamine. T'étais bien sur ton canapé, si mets un avis. Nous raconte pas ta life, le sujet du whisky. Qui c'est qui casse, veut du concret. Crois pas en sortir indemne, car c'est ceux qui tuent confrères. Consumons ton corps inerte. Plus le temps de vous expliquer la flemme. J'enchaîne en mode costard. Plus le temps pour une disserte. C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice pour les vitrines.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines.
C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice pour les vitrines.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines.
Trop de gens en bas du père, trop de balayages qui se perdent. Ta neutralité annonce un horizon funèbre. Un dernier coup de pelle avant la mise en pierre. On pisse sur la stèle avant d'y déposer une gerbe. Si tu pointes la lune, paraît que l'idiot t'aimait ton doigt. Tu connais la tâche, ça finit en bras de fer chinois. Tu m'habitoies pas sur notre sort. On commence à compter les morts, commenter les temps, commémorer pour la forme. Force est de constater que le futur est filiforme. Force est de contempler cette fracture qui se forme. La république vacille, ton conseil reste statique. On marche au démon, chaque pas est stratégique. La barricade à queue de camp, t'as fait ton choix visiblement. Tu suis la vague au gré du vent, tu dis vague vaguement. Avec le temps, les masques tombent et les temps changent. Ça peut finir en hécatombe, le ton est à la décadence. C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice pour les vitrines.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines.
C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice pour les vitrines.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines.
Justice pour les vitrines, enfermer ces parasites qui profitent du système, qui lobbyent, c'est un parasite. Ce sera ta seule lutte sur les raisons, bien évidemment. Sortir, ça devient dangereux, encore faut-il qu'il fasse beau temps. À ce que je vois, ça se fout pas trop, ça va. Ça marche, tire au crash média. Porte ou flara, un avis fabriqué à l'arrache. Briser une vitrine, on parle de violence physique. Mener au suicide, j'appelle ça violence psychologique. Expert en deux mers, la mouche a sorti ses couverts. Sort tes couverts en couverture hebdomadaire. Figaro vous, vos valeurs ne sont plus actuelles. L'espoir fait vivre Charles Martel. Martel, ta propagande pleine de raccourcis douteux. J'étais mal derrière ton épaule, tu voulais cacher ton jeu. Assume, au moins, on sera fixés tous les deux. Je veux pas que ma chaîne taffe, t'as la face d'un faf, pas que. C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice pour les vitrines.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines.
C'est l'émotion qui part.
Justice pour les vitrines.
T'as vu du sang tout part, mais
justice.
Vos fautes sont inévitables, vu que la violence est à géométrie variable.
Justice pour les vitrines. Justice pour les vitrines. Justice pour les vitrines.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes toujours en compagnie de Charlotte, qui nous parle de son activité militante anti-répression. Et nous étions en train de parler plus spécifiquement de la différence de traitement entre les manifestants, on va dire lambda, qui sont placés en garde à vue après des manifestations, on va dire classiques, et le traitement judiciaire, donc des révoltés de ces dernières semaines après la mort de Naël. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que je crois que tu as commencé quand même à t'intéresser à l'antirépression avant les révoltes de juin.
Ouais, carrément. Moi, du coup, ces dernières années, j'ai fait partie de pas mal de assos collectifs sur différentes luttes. En fait, j'ai traîné mes pattes un petit peu partout. Et sans être juriste, j'apprécie beaucoup les questions de droit et je m'intéresse beaucoup aux questions de répression. Alors, moi, je suis une personne blanche, issue de milieux assez privilégiés, j'ai fait des études. Et du coup, la répression auquel je me suis intéressée en premier lieu, c'était essentiellement celle qui touchait les personnes militantes. Normal, vu mes cercles sociaux, c'est celle qu'on approchait le plus, en fait, moi ou mes amis, dans les lieux où je militais. Et du coup, en fait, assez vite, je me suis retrouvée à me documenter beaucoup sur les questions d'anti-rep, à faire des mini-briefs avant une action, par exemple, à être la personne qui s'occupe des garanties de représentation des personnes qui vont en action, sans toutefois passer le cap de m'engager auprès d'une legal team par question de légitimité, sans doute, vu que je suis pas forcément juriste, par question de temps aussi et d'énergie à consacrer. Enfin, l'anti-rep, c'est vite très très chronophage. Mais voilà, là ponctuellement, je pense que j'en ai parlé un petit peu au début de l'émission, mais sur le mouvement qu'a suivi la mort de Naël, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas trop où se placer par manque de lien avec les quartiers populaires et qui du coup se sont placés en soutien et du coup se sont retrouvés sur des questions anti-rap et j'en ai fait partie du coup.
Donc tu as pu constater quand même peut-être une évolution entre les procès qui ont eu lieu pendant le mouvement social, notamment contre la réforme des retraites, et puis après ces procès des jeunes révoltés de banlieue.
Alors après, je n'irai pas forcément jusqu'à dire que il y a un clivage net, enfin je veux dire la répression sur les personnes militantes à la fin du mouvement contre la réforme des retraites, on la voyait aussi, il y avait des gens qui partaient, des jeunes sans casier, avec des garanties de représentation parfaites, qui partaient en détention provisoire, ça arrivait aussi, mais c'était assez ponctuel et assez choquant en fait quand ça arrivait, et là c'était quasi systématique, c'était vraiment massif en termes de recours au mandat de dépôt, à la détention provisoire. Mais voilà, il faut quand même se dire que la répression, elle vient en fonction des orientations politiques que vont donner certains ministères au parquet, aux magistrats. Il faut essayer, enfin, il ne faut pas non plus se dire que la répression, là, d'un coup, elle est apparue uniquement pour une catégorie de population. Enfin, il y a juste des caractéristiques un peu différentes en fonction des mouvements sociaux. Mais bon, là, c'était quand même assez choquant.
J'imagine bien, c'est sûr que, loin de moi l'idée de dire que le mouvement contre la réforme des retraites n'a pas été réprimé aussi, mais on a assisté quand même à beaucoup de choses assez choquantes. Moi, je me souviens notamment de quelque chose qu'on m'a raconté, à deux jours d'intervalle, deux groupes de jeunes révoltés qui ont été jugés par le même juge. Et qui venaient de quartiers différents et qui n'ont pas reçu les mêmes sanctions. Pour te dire, les premiers jeunes qui venaient de banlieue nord, je me souviens plus exactement laquelle, ont tous été placés donc en détention provisoire avec mandat de dépôt. Donc ils étaient à peu près un peu moins d'une dizaine. Et le lendemain, donc avec le même juge, pour à peu près les mêmes faits, hein, donc avec la même gravité, des jeunes qui venaient plutôt de Versailles, qui sont repartis libres en attente de leur procès. Donc c'est quand même assez... Alors tous ne sont pas repartis libres quand même, hein, je crois que c'est 3 sur 5, mais ça montre bien une certaine différenciation et quand même une certaine permissivité pour des jeunes, donc plus beaux quartiers, qui seraient donc beaucoup moins tentés par le retour à la rue entre la présentation devant le juge et puis leur procès, la prononciation de la peine. Et j'aimerais savoir aussi si toi t'as assisté à des cas comme ça, parce que moi effectivement j'ai lu des choses, on me les a rapportées, mais est-ce que toi t'as vécu ce genre de choses ?
L'anecdote dont tu parles, j'en ai entendu aussi parler par une personne qui a assisté à l'audience, et il y a un truc qu'on a oublié de préciser et que la personne qui l'avait raconté aussi avait oublié sur le moment, mais c'était des personnes blanches versus des personnes racisées aussi, et
c'est exemple bien de préciser aussi.
Ça paraît basique, mais c'est un vrai truc, quoi. Exemple caricatural de justice raciste. Avec, j'ai eu quelques détails sur les jugements qui ont été rendus, mais en fait, pour les personnes racisées, plutôt de banlieue nord, c'était un procès à charge. Vous étiez dans les émeutes, vous n'auriez pas dû être là, voilà, on vous envoie un mandat de dépôt, et on ne leur cherche aucune excuse. Enfin, la question se pose même pas. Alors que pour les jeunes plutôt de l'Ouest parisien, c'était monsieur fait des études, il a fait un petit pas de côté, il va se remettre sur le droit chemin. En fait, c'est des plaidoiries qu'on entend souvent pour des personnes militantes blanches. C'est hyper choquant. Et là que les juges aient décidé spontanément d'avoir recours à ces arguments, ou les avocats aussi, c'est un peu lamentable, quoi. Sinon, moi, en fait, dans les comparutions auxquelles j'ai assisté, j'ai pas forcément... je crois que j'ai vu aucune personne blanche ayant participé aux émeutes. Enfin, personne blanche et ou issue de milieux particulièrement privilégiés. Mais n'empêche que la répression qu'on pouvait voir avec les peines qui tombaient, elle était choquante même par rapport à ce qu'on connaît, en fait. Si on réfléchit aux faits qui étaient reprochés, parfois c'était... vol d'une caisse de whisky dans un G20. Et les personnes prenaient un an de prison ferme pour ça.
Un an ferme.
Un an ferme. avec des interdictions de territoire français aussi pour les personnes sans papier. Souvent, bien souvent, il y avait la double peine, hein, c'est-à-dire que les personnes qui étaient sur titre de séjour ou sans papier, leur titre de séjour tombait et elles se prenaient des interdictions de territoire français, des OQTF, en plus
qui auraient pu constituer en soi une peine, en fait.
Ouais, hein, bien sûr. C'était systématiquement demandé par les procureurs et assez souvent accordé par les juges. Moi, ce qui m'a beaucoup choquée, en tout cas, sur ces comparutions immédiates, c'est que bien souvent, les personnes auxquelles, enfin, les audiences auxquelles j'ai assisté, les personnes n'étaient pas directement prises en flagrant délit d'effectuer une dégradation, de casser une caméra, etc. On les interpellait à proximité des lieux. Souvent, c'était des personnes qui essayaient de fuir quand elles voyaient la police. C'est-à-dire qu'elles se mettaient à courir et les policiers les rattrapaient. Et en fait, c'était tout ce qu'on pouvait leur reprocher, quoi. Parce qu'il n'y avait pas forcément de... Il y avait plusieurs cas où il n'y avait pas de vidéosurveillance qui pouvait prouver les faits. Il n'y avait pas de bornage téléphonique à proximité immédiate. Enfin, le téléphone bornait à quelques centaines de mètres, mais quelques centaines de mètres, ça ne veut pas dire qu'on a préparé aux dégradations. Et en fait, derrière, on se retrouvait avec des vrais procès d'intention, avec des juges qui disaient « Mais vous étiez là le soir dans la rue alors qu'il y avait des émeutes, vous n'étiez pas chez vous, donc vous participiez aux émeutes. » Et en fait, ça, en termes de droit, c'est pas carré, quoi. Enfin,
c'est même scandaleux.
Il
n'y
a pas de preuves. Mais vraiment, en fait, on avait vraiment l'impression qu'il fallait punir les révoltes, parce qu'il fallait que ça cesse, il fallait intimider les gens, faire tomber des peines pour que les gens prennent peur et arrêtent de sortir le soir pour faire des émeutes. Et en fait, peu importe en réalité qui on punissait, de quelle manière, etc. C'était même traitement pour tout le monde. Et il y avait assez peu de moyens de se défendre en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des personnes accusées plus ou moins des mêmes faits, c'est-à-dire accusation de participer à des groupements en vue de commettre des dégradations. Certaines personnes qui étaient très mal défendues par des avocats qui les enfonçaient. Et certaines personnes qui étaient très bien défendues par des avocats des legal teams qui faisaient des plaidoiries hyper carrées. Et en fait, les juges ne faisaient aucune différence. Enfin, c'est-à-dire que c'était quasiment les mêmes peines
travail
pour tout le monde.
Pour rien.
Tout staff. Mais on avait vraiment l'impression que c'était une machine de répression, mais très politique, très contextuelle.
Que la peine était connue d'avance, en fait.
Ouais.
Et ça, du coup, comment tu l'expliquerais, toi, dans la mesure où, quand même, tous les juges ne sont pas de droite ? Enfin, on espère. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment la circulaire, parce que ça... Enfin, quand même, j'imagine que tous n'ont pas forcément dans leur idéal, on va dire, par rapport à leur métier, leur profession, de devoir punir des jeunes de banlieue. Enfin, c'est...
Moi, je fais pas partie de la magistrature, j'ai du mal à évaluer... à quel point ça joue, mais en fait, on avait vraiment l'impression que sur certaines peines, il y avait des juges qui appliquaient à la lettre la circulaire. C'est-à-dire que la peine mentionnait que... la circulaire mentionnait que on pouvait avoir recours au mandat de dépôt, il y a eu des recours massifs au mandat de dépôt. La circulaire mentionnait l'exploitation possible des portables, des vidéos Snapchat, etc. En fait, ces vidéos, elles étaient... Enfin, ces données, elles étaient systématiquement exploitées. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de fois où la circulaire, elle était suivie à la lettre, quoi. Enfin, quand vous lisez la circulaire... Enfin, moi, quand je lis la circulaire et que je repense aux comparutions auxquelles j'ai assisté, je vois un lien très, très fort. Il y a une personne que je connais qui a essayé d'interpeller un juge à un moment... Enfin, d'interpeller dans la salle, hein, en lui disant « Mais vous appliquez juste la circulaire de Dupond-Moretti » et le juge s'en est défendu. Principe d'indépendance de la justice. Mais bon,
oui,
c'est quand même assez clair
qu'il
y a des directives qui sont tombées, quoi.
Donc, bon, c'est fait, mais c'est pas assumé.
Visiblement, non.
Et toi, particulièrement, du coup, t'as assisté à certaines comparutions ?
Ouais. En fait, les comparutions immédiates, elles sont publiques. Et dans le fonctionnement normal, ouais. Enfin, elles sont pas à huis clos. Du coup, il suffit de aller au tribunal, à l'accueil, demander s'il y a des comparutions immédiates le jour même. On vous indique les salles et en fait, à l'entrée de la salle, à partir d'une certaine heure, il y a le nom des personnes qui comparaissent et aussi les faits qui leur sont reprochés. Donc en fait, c'était assez simple de voir quelles comparutions immédiates concernaient des personnes qui avaient fait partie des révoltes. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient présents dans les tribunaux pour... documenter les peines qui tombaient aussi. Il y avait des journalistes, il y avait des personnes solidaires, des juristes aussi, qui essayaient de rassembler des données sur la répression. Et certaines personnes aussi qui essayaient de faire du lien avec les proches. Parce que bah, comme on le disait, il y a pas mal de gens qui n'avaient pas de casier auparavant, donc c'était la première confrontation avec la justice, et qui se prenaient des grands 2 ans fermes. Et bah, ça, pour les familles, les proches, c'est quand même assez choquant, on n'est pas forcément préparé. Du coup, il y avait des tentatives de lien pour, qui se faisaient pour essayer de filer des infos, etc.
Et donc là, c'est vraiment une espèce de solidarité, en fait, pour essayer de faire en sorte que les familles gèrent mieux cette situation qui est quand même très difficile. Et il n'est pas nécessaire, en fait, d'être forcément juriste pour ça. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on a quelques notions juridiques qui nous permettent de comprendre la situation, est-ce qu'on peut aider ?
Bah, j'ai l'impression que oui, quand même. Après, ça dépend du contexte, ça dépend de la manière, ça demande un petit peu de finesse, quand même, pour approcher des proches que vous ne connaissez pas. Mais voilà, en discutant un peu avec les personnes, vous vous rendez souvent compte qu'il y a des gens qui captent pas du tout ce qui est en train de se passer. Je sais que j'ai des amis qui se sont retrouvés plusieurs fois à expliquer au père des personnes, au père, aux mères des personnes qui comparaissaient, ce que c'était qu'une comparution immédiate. Alors qu'ils étaient dans la salle pour la comparaison immédiate, parce que bah, c'est pas forcément des enjeux auxquels les gens sont formés. Les avocats, avocates n'ont pas forcément le temps ou ne prennent pas forcément le temps de discuter avec les proches pour leur expliquer les enjeux. Du coup, il y a ça qui est possible de faire. Et après, sur la question de l'enfermement suite aux peines qui tombaient, bah, si on dispose des informations sur, je sais pas, les horaires de parloir, les aménagements de peine, les possibilités d'apporter des affaires, etc., bah oui, c'est toujours des choses qui sont utiles et qui dépannent un petit peu les familles. Voilà.
Donc, c'est quand même quelque chose qui nécessite quand même d'avoir fait un peu de formation en amont. Toi, comment tu as réussi à faire ça ?
Moi, j'ai un petit peu appris sur le tas, comme beaucoup de monde, en fait. Mais de rien, les informations, je pense que quand on y est confronté pour la première fois dans l'urgence avec un proche qui vient de se prendre un an de tôle, c'est hyper déstabilisant. Mais en réalité, les informations sur les prisons, les peines, etc., c'est, y a quand même des informations qui reviennent très régulièrement et qu'on peut ressortir de manière assez systématique. Du coup, ça va. Mais j'ai vraiment appris au contact de personnes qui étaient dans des collectifs plutôt anticarcéraux, d'anti-REP, et qui me transmettaient leurs informations, en fait. J'ai l'impression que l'anti-REP, c'est beaucoup de formation informelle au contact de personnes qui sont déjà formées.
C'est là qu'on mesure quand même l'engagement militant que ça demande. Donc, bravo à vous.
Bah ouais, l'anti-REP, c'est assez chronophage, hein. Je crois que j'en parlais un petit peu avant. Mais ouais, c'est un investissement.
Il faut être accroché. Non, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler parce qu'effectivement, quand on va en manifestation, c'est pas quelque chose à laquelle on pense tout de suite, qu'il y a vraiment des groupes de gens qui s'organisent pour nous soutenir si il y a effectivement des problèmes, on va dire, avec la police et tout ça. Et je pense que ça pourrait peut-être en aider pas mal parce qu'effectivement, quand on n'est pas assez bien accompagné dans ces moments-là, bah, on peut faire des erreurs quand même qui sont assez, qu'on paye assez cher.
Mais ça, c'était une des raisons pour lesquelles notre groupe s'est mobilisé, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir les comptes rendus des premières comparaisons immédiates vers le 29 juin à peu près. Et en fait, on se rendait compte que systématiquement, les gens parlaient au commissariat, les gens avouaient les faits. Et que, en fait, si ces personnes n'avaient pas avoué les faits, elles n'auraient pas été condamnées. Par exemple, sur la question des mortiers, il y a une anecdote qui était assez hallucinante où, en fait, la police peut vous faire des tests pour voir si vous avez des présences de poudre sur les doigts. Et en fait, ils faisaient les tests. Et tous les tests revenaient négatifs. C'est-à-dire que les tests ne marchaient pas. Parce qu'entre-temps, il y avait des personnes qui avaient avoué, du coup, après avoir fait les tests, mais sans avoir encore le résultat, avoir tenu des mortiers. Et du coup, la police s'est rendue compte qu'aucun de ces tests ne marchait. Mais comme les personnes avaient avoué entre-temps, bah, c'était bénef. Et du coup, ces personnes se retrouvaient avec des peines de prison ferme, alors que si elles n'avaient pas parlé au commissariat, ce qui est un droit, elles n'auraient pas forcément été accusées ni condamnées pour les faits qui leur étaient reprochés.
Oui, c'est incroyable. Donc, on a vraiment, en fait, la pression policière en détention provisoire, ou en garde à vue, plutôt là, à ce moment-là, qui peut jouer énormément.
Ouais.
Donc, si on garde pas son calme et qu'on n'est pas assez accroché pour refuser d'avouer quoi que ce soit, de signer quoi que ce soit. On reviendra sur la question de la signature, parce que je crois que c'est quand même quelque chose de complexe à aborder, avec surtout les nombreuses choses qu'on nous propose de signer. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on ait un petit mot, parce qu'on a parlé donc de Naël, donc, qui a été tué par un policier, comme tu disais, le 27 juin. Mais en fait, il ne faut pas oublier non plus toutes les victimes dont la mort n'a pas été filmée. Et celle-là qui donc auront d'autant plus de mal à trouver, on va dire, justice, comme Alhoussein Camara, qui a été tué par la police à peine 2 semaines avant, à Angoulême. Dans une ruelle, sans que personne ne puisse prendre de vidéo, et qui, pour l'instant, dont l'enquête, pour l'instant, piétine. Et je pense que, voilà, on pourrait quand même se dire que quand on doit s'en remettre totalement à la justice, c'est quand même assez difficile pour ces familles. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut demander justice pour Naël, pour Alhoussein, Théo, Adama?
Se spelisse l'Udeliura,
l'Udeliura, camara de l'Udeliura,
il y a sempre d'âme sourne per l'empaccia,
per l'empaccia, camara de per l'empaccia,
che segue a Cuba nevo a Ramala,
a Ramala, camara da Ramala,
della verità per un po' Radama,
per Radama, camara de per un po' Radama,
per tutti l'argento.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. C'était Camarada, en français camarade, interprété par le groupe occitan UAI. J'espère que je prononce bien, à chaque fois j'ai des doutes. Donc nous sommes toujours avec Charlotte, qui nous parle d'anti-répression policière et surtout judiciaire. Très concrètement, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur les réflexes à avoir quand on va en manif. Et puis après, si on est en garde à vue, quel comportement adopter et ensuite, qu'est-ce qu'on risque.
Bah, très concrètement, quand on va en manif, il y a une première chose qu'à anticiper, c'est la répression policière physique, au sens où la police est armée avec des armes qui peuvent tuer, enfin les flashballs, des grenades, les gaz lacrymo, les tasers, juste les matraques aussi, les tonfas. Et du coup, ça, il faut faire attention à soi aussi. On peut se protéger en manif. Alors, je rappelle qu'il y a un rendu du tribunal administratif qui date du 4 avril dernier, qui précise bien qu'en fait, le matériel de protection, les lunettes, les masques, etc., ne sont pas interdits. Enfin, en tout cas, le ministère de l'Intérieur, quand il prend des arrêtés qui interdisent le port de ce type d'équipement, eh ben, c'est illégal. Le tribunal administratif l'a confirmé. Donc, on peut avoir des lunettes de piscine en manif. Voilà.
Mais alors, du coup, ça veut dire qu'on peut être arrêté et ensuite juste ne pas être condamné parce qu'il y a cette décision qui invalidait cette arrestation.
Après, ça, c'est en théorie. Hein. Après, ça, c'est en théorie. Ça dépend vraiment de... En fait, l'avocate aura beau vous citer des jurisprudences parce que, en fait, l'arrêté dont je parle, il y avait déjà eu des jurisprudences précédentes, les années précédentes. Et il y a quand même des personnes qui sont... condamnés ou en tout cas bien embêtés pour le port de ce genre de matériel, en tout cas qui font des gardes à vue, même s'ils ressortent libres de garde à vue. Donc c'est un risque, en fait. C'est pas normal que ce soit un risque, mais c'en est un.
Bon, c'est bien de le garder à l'esprit.
C'est bien de le garder en tête.
Je pense qu'effectivement, on a cette idée comme quoi, effectivement, la justice, toujours impartiale, nous délivrera toujours la peine adaptée, mais bon.
Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué voilà. Que ça, ouais.
Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, pendant la musique, que c'était d'autant plus complexe qu'en fait, il n'y avait pas forcément qu'un seul chemin possible pour les mêmes faits qui sont reprochés à certaines personnes. Mmh. Et peut-être tu peux revenir là-dessus, sur... certains conseils quand même pour la garde à vue, en tout cas les comportements adoptés.
En fait, si tu veux, je vais commencer par retracer un peu les différentes possibilités qui peuvent arriver quand on est emmené en garde à vue. Alors ça va être assez partiel parce que c'est des situations qui sont très complexes et ça remplacera jamais, là ce que je veux dire, une brochure ou une vraie formation sur la question. Mais concrètement, quand on est interpellé et placé en garde à vue, c'est qu'on reproche un fait à la personne. En garde à vue, normalement, c'est un temps où la police prend le temps de faire une enquête pour pouvoir prouver que vous avez effectivement commis ces faits et dans quelles circonstances, avec qui, etc. Donc en garde à vue, vous allez notamment avoir une audition avec un officier de police judiciaire qui va vous poser des questions sur les faits qu'on vous reproche. Il faut savoir que le principe d'une enquête policière, c'est que la police doit... d'elle-même prouver ce qu'on vous reproche. C'est pas forcément vous qui devez vous confier à la police sur ces faits-là. D'où le principe du droit à garder le silence. C'est un droit qui ne peut pas vous être reproché, normalement. Ça peut énerver très fort la police. Ça peut aussi énerver un petit peu les magistrats si vous refusez de parler systématiquement. Mais c'est un droit et normalement, ça ne peut pas vous nuire. Et ça peut d'autant moins vous nuire que plus vous parlez à la police... plus on facilite le travail d'enquête. Et c'est ce que je disais, en fait, sur les... Bah, avouer des faits, reconnaître des faits. À partir du moment où c'est fait, bah, c'est fini, on ne peut plus faire en arrière. Et c'est tout bénef pour les autorités policières et judiciaires derrière.
Et parfois, en fait, même des faits très minimes...
même des faits très
minimes,
en fait.
...peuvent être utilisés contre nous. J'avais le souvenir que rien que de dire qu'on avait été à la manifestation, en fait, pouvait même devenir un problème.
Oui, parce qu'il y a des peines... enfin, il y a des délits qui existent de groupement en vue de commettre des dégradations, etc. Donc, en fait, le fait même de se rassembler sans rien faire, ça peut vous être reproché. Et en l'occurrence, sur le dernier mouvement social, là, ça a causé certaines personnes à aller plusieurs mois en prison ferme, quoi. Il y a aussi le fait que, en fait, parfois des choses qui peuvent paraître minimes entraînent des peines de prison vraiment énormes. J'ai beaucoup vu ça en comparaison immédiate la semaine dernière, des personnes qui, par exemple, étaient accusées de s'être débattues lors d'une interpellation, d'avoir résisté, etc. Ou des personnes qui avaient balancé des canettes en verre en direction des policiers, sans forcément les viser, mais juste en acte d'intimidation, mais en fait, on leur révélait le jour de l'audience que c'était passible de 10 ans de prison ferme. Et en fait, il y a des choses comme ça. On n'est pas forcément toujours au taquet sur les conséquences de ces actes en manif. Et il faut à minima en avoir discuté avant, avec un avocat avant de commencer à reconnaître des faits, etc.
Donc la première défense déjà en garde à vue, c'est de ne
garder
pas
le silence.
Parler, tout à fait. Garder le silence. Et la formule, c'est vraiment ça, garder le silence.
Après, il y a des variations, mais je n'ai rien à déclarer, ou sur conseil de mon avocat, je cherche à exercer mon droit à garder le silence.
Non, mais ça varie, parce que après, c'est vrai qu'ils nous déstabilisent à nous demander toujours les mêmes choses. Donc, comme ça, on peut varier un peu, avoir l'impression d'un dialogue. Non, mais c'est pas mal.
Ouais. Mais du coup, quand on est en garde à vue, on peut être gardé 24, 48, 72 heures.
72 heures ? C'est pas ça peut arriver.
Normalement, c'est exceptionnel.
C'est pas pour les terroristes, ça ?
Terroriste, elle a déjà assisté jusqu'à 96 heures, il me semble.
Ah non, encore plus.
Ouais, il y a encore plus. Mais après, il y a des personnes qui, sur des contrôles, enfin, des interpellations quasiment de routine en manif, sont restées 72 heures au commissariat. Ça peut arriver. C'est pas. Ils les avaient oubliés là, ouais. C'est pas normal, mais c'est des choses qui sont pratiquées assez couramment. Donc, en théorie, quand vous avez fini vos 24, 48 et plus heures en garde à vue, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Vous pouvez sortir libre, parce que, enfin, sans rien du tout, quoi.
C'est ce qui t'est arrivé notamment pendant la réforme des retraites, avec plein d'arrestations qui n'avaient abouti à rien du tout.
Même pas une comparaison. 17% des gens qui ressortaient sans rien, quoi.
Donc c'est vraiment de l'intimidation, quoi.
Ouais. Vous pouvez ressortir avec une convocation, vous pouvez ressortir avec un contrôle judiciaire, et vous pouvez aussi être déféré au tribunal. Ça veut dire qu'on va vous conduire au tribunal. Vous allez passer un certain temps là-bas, jusqu'à 20 heures. En attendant une comparution immédiate. Et la comparution immédiate, en fait, c'est un jugement immédiat, avec, en gros, un procureur qui vous accuse, une avocate qui vous défend, et des juges qui sont là pour délivrer des peines. Et en fait, cette comparution immédiate, vous avez le choix ou pas, enfin, vous avez le droit de la refuser, en tout cas de renvoyer la date, c'est-à-dire de la décaler pour avoir le temps de préparer votre défense. En général, c'est ce que les avocats et avocates solidaires conseillent, parce qu'effectivement, répondre aux questions d'un juge qui vous enfonce après 48 heures passées au commissariat, voire de la détention provisoire aussi, c'est pas évident. On n'est pas dans les meilleures conditions pour se défendre. Et du coup, vous pouvez demander un renvoi. En général, c'est la première question du juge, c'est est-ce que vous souhaitez être jugé maintenant ou est-ce que vous souhaitez bénéficier d'un délai ?
Et l'intérêt, en fait, de bénéficier d'un délai, non seulement c'est de préparer sa défense, mais c'est aussi de laisser, je pense, retomber aussi l'effervescence médiatique qu'il y a autour du procès. Parce qu'effectivement, peut-être, mais après, je ne sais pas, c'est à toi de nous dire, il y a une sévérité un peu supérieure le lendemain d'une révolte urbaine, par exemple.
Bah, en tout cas, ces dernières semaines, oui, le contexte jouait énormément. Et le contexte était très souvent rappelé par les juges et par les procureurs, de dire, c'est le contexte des émeutes urbaines. Et les actes individuels étaient jugés dans ce contexte, et c'était très clair que ça jouait. Après, est-ce que dans quelques mois, ce sera vraiment moins pire en termes de répression ? Est-ce qu'il n'y aura pas régulièrement des circulaires qui viendront rappeler que le contexte des émeutes urbaines, c'est pas parce que ça fait 3 semaines, c'est pas parce que ça fait 3 mois qu'il ne faut pas punir sévèrement, je ne sais pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se prononcer, mais effectivement, quand la tension médiatique retombe, on peut s'attendre à ce que ce soit moins pire.
En tout cas, ça peut être que bénéfique de... Ça... De reporter ?
Alors, oui et non.
Non.
Parce que, en fait, quand vous demandez un renvoi, mettons que votre audience, elle est décalée à 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, mettons. Et bah, toute la question, ça va être de comment vous passez ces 2 mois. Parce que, en fait, la justice, à ce moment-là, ça va se poser la question, est-ce que cette personne, si on la reconvoque dans 1 mois, elle va vraiment se présenter à l'audience. Est-ce qu'elle va pas chercher à échapper à la justice ? Est-ce qu'elle va pas se mettre... chercher à fuir, entre guillemets. Et là, intervient la question des garanties de représentation. C'est quelque chose que j'ai mentionné déjà dans l'émission. En gros, ça va être tout un ensemble de preuves, de documents ou de déclarations qui vont être censés prouver à la justice que vous êtes une bonne citoyenne. Que vous êtes bien inséré, alors ça va être des preuves d'emploi, donc des fiches de paye, des quittances de loyer, donc vous avez un domicile fixe, le fait que vous êtes ou non en couple, que vous ayez des enfants, le fait que vous... Mais aussi tout un ensemble d'attestations, que vous faites du bénévolat, que vous avez tel type de loisirs, d'activités, etc., qui vont en fait donner un petit peu confiance à la justice pour vous laisser libre entre la date où vous comparaissez de manière immédiate et la prochaine date d'audience. Et en fait, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir les meilleures garanties de représentation possibles. La justice ne vous fait pas confiance. Et là, il va y avoir tout un ensemble de mesures qui vont... de la détention provisoire. Donc, vous êtes envoyé en prison en attendant votre audience à sortir libre, mais aussi sortir sous contrôle judiciaire. Et là, les contrôles judiciaires, il y en a énormément différents. Le plus classique, c'est pointer tous les X jours au commissariat, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les deux jours, tous les jours, ça arrive. Mais vous pouvez aussi être sur contrôle judiciaire avec des couvre-feux, avec des interdictions de certains territoires, interdiction du Val-de-Marne, interdiction de telle ville, etc. etc. Donc ça, c'est hyper varié, hyper complexe. Tout se conteste en théorie, mais les délais d'appel sont longs. Et vous pouvez, après une... Si vous demandez le renvoi de votre comparution immédiate, passez quand même quelques temps en tôle.
Oui, donc là, quand même, on est sur un contexte qui ne nous permet pas davantage d'aborder avec sérénité la comparution. Quoi.
Non.
Et c'est d'autant plus criant, du coup, j'imagine que là, tu me parlais des garanties de représentation. Donc, quand on a pourtant les meilleures garanties du monde, ça ne fonctionne pas forcément. Mais quand on ne les a pas, du coup, ça ne fonctionne jamais. J'imagine que là, justement, des personnes qui pouvaient être sans papier ou dans des situations délicates se sont retrouvées systématiquement, en fait, en détention provisoire.
Moi, je n'ai pas assisté à des renvois de comparution immédiate pour des personnes sans papier.
Donc, elles sont toutes passées.
Mais j'imagine, toutes les personnes sans papier ou sur tout jour que j'ai vu passer en comparution immédiate, demander à être jugée sur le moment.
Peut-être parce qu'elles savaient ça aussi.
C'est possible, peut-être qu'on ne leur avait pas mentionné cette possibilité aussi. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre, en fait, vu la sévérité des conditions de renvoi, enfin, je veux dire, moi, tous les renvois auxquels j'ai assisté quasiment, les personnes allaient en détention provisoire. Même avec les meilleures garanties de représentation du monde. Donc, sans non plus faire de pronostic, on peut imaginer effectivement qu'une personne plus précaire, moins. Avec ou sans papier, effectivement, serait allée en taule aussi.
Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est une question qui est souvent posée, qui est un peu naïve, mais quand même, je te la pose. Quand on est en garde à vue, du coup, il y a cette pression quand même. On est dans un endroit qui n'est pas forcément très confortable, dans une situation de tension quand même assez extrême. Et on nous demande notamment nos empreintes, notre ADN, notre code de téléphone. Et toi, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Est-ce qu'il faut refuser ou pas? Parce que c'est quand même risqué ou pas?
Est-ce qu'il faut refuser ou pas? Ça dépend des situations. Et je pense que c'est des questions qu'il faut voir avec son avocate sur le moment. Vous avez le droit d'avoir un avocat avant d'avoir votre audition avec l'officier de police judiciaire en garde à vue. Et c'est souvent au cours de cette audition qu'on va vous demander vos codes de téléphone, etc. En tout cas, c'est toujours possible de dire, avant de vous donner quoi que ce soit, j'ai besoin de parler à mon avocat, à mon avocate. En fait, bon, la question du téléphone, comme la question des empreintes, je crois que ça ne s'est pas tant vu là. En tout cas, la question n'a pas tant été posée. Un petit peu quand même. Mais ça s'est beaucoup vu sur la question, sur le mouvement de la réforme des retraites, où en fait, les personnes qui allaient en garde à vue et qui refusaient de donner les codes de leur téléphone, leurs empreintes, leurs ADN, prenaient de manière assurément plus cher que les autres. C'est-à-dire que c'était vers la fin du mouvement, je me souviens des comparutions après le 1er mai, systématiquement, si on refusait de donner ses empreintes en garde à vue, on était déféré au tribunal. Ça ne voulait pas dire que si on les donnait, on n'était pas déféré. Mais c'est des choses qui arrivaient très très fréquemment, y compris parfois avec des placements en détention provisoire sur des questions de refus d'empreinte. Donc voilà, ça peut entraîner des risques de refuser de donner ses empreintes, son ADN. Et la question du code de téléphone, ça joue aussi. Le fait de refuser de donner son code de téléphone, ça peut entraîner. En fait, les OPJ, les juges peuvent vous les faire payer ces questions parce que ce sont des délits, parce que ça agace aussi. Hein. Des fois, ça se joue là-dessus.
Parce que ça révèle aussi une certaine connaissance, on va dire, de l'institution.
Des droits, et puis une volonté de ne pas coopérer aussi.
Et puis ça me distingue aussi un profil militant, oui. J'imagine, et être militant, c'est pas forcément bien vu.
C'est des questions qui sont vraiment dures à déterminer parce que ça dépend des commissariats, ça dépend des OPJ, ça dépend de la tête du client.
Est-ce que c'est grave en fait de donner ses empreintes et son ADN?
En théorie, c'est, bah, c'est possible oui, mais... d'un an d'emprisonnement et de plusieurs milliers d'euros d'amende. Hein.
Non, non, est-ce que je dis, est-ce que c'est grave de les donner?
Ah, de les donner, pardon, ouais. Excuse-moi,
qu'est-ce
de pas
ça...
les donner.
Qu'est-ce que ça change?
Eh bah, bien, sur la question des empreintes de l'ADN, c'est une participation au fichage. Si vous, un jour vous donnez vos empreintes au commissariat, pour X raisons, par la suite, il y a des stratégies militantes qui existent de, quand on fait une action, collectivement, de ne pas donner son identité. Vous, quand la police n'a pas votre identité, vous n'avez aucun document à produire, vous donnez juste une identité à l'oral, ou alors vous refusez de décliner votre identité, on peut vous emmener au commissariat pour vérifier votre identité. La police a 4 heures pour le faire. Et en fait, si vous avez donné vos empreintes, et ben ils ont juste à prendre vos empreintes. Alors, en théorie, il faut une réquisition du procureur, mais c'est quand même très facile de l'obtenir pour la police. Ils peuvent aussi vous forcer à donner vos empreintes. Et dans ce cas-là, toutes ces stratégies tombent à l'eau. En fait, si tout le monde donne ses empreintes, c'est très facile de retrouver l'identité des gens. Après, c'est des stratégies collectives, militantes. Moi, j'ai pas forcément de conseil général à donner là-dessus. Mais... et on peut aussi être opposé au fichage... par principe.
Mais disons qu'en fait, c'est l'idée de se dire, on n'a pas encore été jugé, donc on n'a été condamné à rien, et pourtant aussi, on sera fiché quand même. Donc carrément. C'est quand même quelque chose de, pour nous, qui est un peu incroyable, c'est-à-dire que finalement, avant même d'avoir été condamné pour quoi que ce soit, on sera quand même dans un fichier de la police quelque part, on aura des traces.
Et on peut demander à supprimer ses empreintes, mais la plupart des gens disent qu'en fait, on n'a jamais confirmation que les empreintes sont vraiment effacées. Non mais après le 1er mai, il y avait toute une série de comparutions comme ça, où les personnes avaient juste été interpellées à la fin d'une manif sauvage, elles faisaient rien de particulier, elles avaient rien d'incriminant dans leur sac, pas d'alcool à brûler, pas de cutter, rien qui puisse vraiment les compromettre. Elles avaient été emmenées au commissariat, donc le chef d'accusation, c'était groupement en vue de participer à des dégradations. En vue de commettre des dégradations, pardon. Et en fait, elles avaient refusé de donner leurs empreintes, elles avaient été déférées au tribunal, et il y avait un procureur qui leur avait dit, mais cash, si vous aviez donné vos empreintes, vous seriez libre à ce moment-là. L'audience de comparution immédiate, il y avait trop de monde au tribunal, donc elle a été décalée de 5 jours. Et en fait, pendant ces 5 jours, toutes les personnes ont été envoyées en détention provisoire parce qu'elles avaient refusé de donner leurs empreintes. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que quand vous arrivez en détention provisoire, d'office, on vous prend vos empreintes. Donc, voilà.
Ah ouais, c'est catastrophique, là. C'est la stratégie.
Quoi qu'il arrive, vos empreintes sont fichées. Et en fait, ces personnes. Les procès ne sont pas encore tombés pour la plupart. Mais en fait, tout est. Enfin.
Tout est fait pour qu'on les donne, en fait.
Tout est fait pour qu'on les donne, mais surtout, il n'y a rien. Le dossier est vide, il n'y a rien à leur reprocher. Donc, en fait, lors d'un jugement, ça se défend très bien. Et a priori, ces personnes vont ressortir relaxées, en tout cas, on l'espère. Mais elles ont quand même donné leurs empreintes entre temps, pour rien. Et ces empreintes sont dans les fichiers de police. Et maintenant, il faut faire la démarche de les effacer, etc.
D'accord, je vois. Et écoute, je pense que on va interrompre un petit peu nos échanges encore une fois pour rappeler quand même que tout ce qui s'est passé là, tout ce dont on parle entre nous depuis bientôt une heure, et ben en fait ça s'est passé pendant les fameux 100 jours d'apaisement annoncé par une personne dont je tairai le nom. J'aimerais quand même préciser que le bilan de l'apaisement, c'est quand même 45 000 policiers mobilisés sur tout le territoire pour les 14 et 15 juillet. Donc c'est super apaisement, on sent que là les Français sont bien apaisés. Et évidemment il y a eu l'utilisation des drones de surveillance pendant les manifs, des couvre-feux instaurés pendant les révoltes urbaines, l'interdiction des bus et des tramways de circuler après 22 heures. Donc voilà, toutes des petites mesures qui montrent le niveau d'apaisement. Et puis, quand même, une nouvelle, moi, que je trouve croustillante pour notamment le fan club de Patrick Pouyanné, puisque le PDG de Total, qui était donc déjà chevalier de la Légion d'honneur, je l'ignorais, mais il l'était déjà, qui a été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Je ne savais même pas qu'il y avait des grades différents, donc maintenant je l'apprends, donc j'espère que vous aussi. Et c'est quand même un incroyable, parce que c'est attribué aux personnes qui ont fait preuve d'un engagement remarquable, donc au service de l'intérêt général. Voilà, Patrick Pouyanné, très bien. Donc du coup, en termes d'indécence, on atteint quand même des sommets. Et c'est à se demander, en fait, s'il ne cherche pas un peu à nous provoquer. Je pense que c'est ça, la stratégie. Et qu'est-ce qui pourrait se passer à nous provoquer comme ça? Je vous laisse imaginer ça en compagnie de Joey Gluten.
C'est stylé, hein? Ouais, on peut tout casser tranquille. Ouais, si tu veux, il y a des gens qui ont dessiné des chattes avec du sandrex sur l'ancien bureau de Darmanin, on peut aller voir. À l'envers, ils sont en train de le cramer là, je les vois par la fenêtre. Oh oh. Ouais, tu veux qu'on les rejoigne ou tu veux qu'on aille chier sur des drapeaux sinon? Ouais, y en a plein, y en a plein. On peut faire ce qu'on veut, ouais, c'est trop bien. Ouais, j'ai envie d'aller essayer le marteau piqueur là. Vas-y, on se retrouve tout à l'heure. Allez.
Ah ouais, ah ouais.
Ceinture noire des petits coups bas. Pas de code d'honneur par chez moi. Ouais, je fais des guillis, j'hésite pas. Je te mets à terre, je te pète dessus. Gaffe les pets vegan, ça pue, c'est nucléaire. Ultra vénère, je passe en force comme passe sanitaire.
Sans la foule mal, mes deux patins. J'ai les pieds faits pour la méga bagarre, méga bagarre. Tête au carré, tout il est fait pour se le casser. J'ai des buildings à la place des bras. Mes bibis, c'est un década qu'un balcon, car calme être carré.
J'en appelle à la puissance de mes ancêtres alsaciens.
Mamie, donne-moi la force de terrasser les vauriens.
J'en appelle à la puissance de mes ancêtres alsaciens.
Mamie, donne-moi la force.
Méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga bagarre.
Nouvelle version des combats de chiens.
Mes trois pitbulls contre toi tout seul.
Nouvelle version des combats de coqs.
Mes trois ampoules contre toi tout seul.
Le dialogue, ça marche pas partout. L'ultra-violence, ça résout tout. Les mecs de droite, ça pige rien à part quand on leur pète les genoux.
Tout est carré, tête au carré, jambes au carré, bouche au carré. Au final, appelle-moi Flash Gorgon.
Parce que trop rapide.
J'suis un vrai ninja.
J'en appelle à la puissance de mes ancêtres alsaciens.
Mamie, donne-moi la force de terrasser les vauriens.
J'en appelle à la puissance de mes ancêtres alsaciens.
Mamie, donne-moi la force.
Méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga, méga, méga bagarre, ouais, ouais, ouais. Méga bagarre.
Méga, méga, méga.
Délibéré sur Radio Libertaire. C'est bientôt la fin de notre émission et même la fin de la saison, puisque nous nous accordons quand même une petite pause estivale. Et avant de conclure un petit peu, de faire notre pseudo-bilan, j'aimerais juste revenir avec toi sur quelques points qui me semblent essentiels, Charlotte, quand on parle d'antirépression, puisque on a abordé la question des empreintes de l'ADN, mais en garde à vue, on peut aussi demander à déverrouiller le téléphone portable. Et voilà, est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça?
Pareil, le fait de refuser de donner ses codes de téléphone, c'est un délit qui peut vous être reproché. Alors, il faut que ça vous soit notifié. Hein. Il faut qu'on vous dise c'est un délit si vous refusez. Mais de manière générale, encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend de l'enquête qui est faite, ça dépend de ce que vous avez sur votre téléphone aussi. Donc, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de conseil général à donner. Mais là, sur le dernier mouvement social suite à la mort de Maël, il y a énormément de personnes qui se faisaient avoir avec ce que la police trouvait sur leur téléphone. C'est-à-dire que les personnes donnaient leur numéro de téléphone et il suffisait qu'il ou elle ait une conversation Snapchat qui parlait des émeutes ou des vidéos des émeutes qu'elles n'avaient pas forcément prises mais qu'elles avaient enregistrées sur leur téléphone ou quoi. Et ça, c'était systématiquement mentionné au tribunal. C'était à charge. Vraiment, moi, j'ai vu des juges commencer à lire des conversations, mais des messages qui n'avaient pas été écrits par les personnes qui comparaissaient. Mais c'est clair que quand un juge commence à lire... Oui, on va brûler le TGI de Créteil. quand on a trouvé ce message sur un téléphone et qu'on est au TG de Créteil, bah, ça vous enfonce un petit peu. Ça permet aussi de retrouver vos amis, les gens qui étaient avec vous pendant les émeutes. Faut savoir que les réseaux sociaux ont complètement coopéré avec les institutions policières et judiciaires là sur ce dernier mouvement social, à donner les adresses IP des gens qui diffusaient les vidéos, etc. Il y a eu beaucoup de perquisitions qui ont été faites après les émeutes grâce aux données recueillies sur les téléphones. Donc c'est donner ces codes de téléphone, c'est quelque chose qui peut vous enfoncer, qui peut enfoncer vos proches. Donc c'est toujours quelque chose à discuter, bien sûr, avec un avocat, une avocate.
Toujours, on n'oublie pas, toujours. C'est quand même le mieux.
Et voilà.
Donc c'est quand même assez risqué. En fait, c'est aussi risqué que de ne pas donner ses empreintes ou son ADN. Mmh. Mais là, il y a vraiment un intérêt immédiat. C'est-à-dire que pour notre dossier, autant avoir donné son ADN ou ses empreintes, effectivement, ça n'a pas d'influence sur le contenu du dossier qui peut nous être attaché. Autant là, c'est disons une ouverture sur un amas de preuves, voire d'inculpation pour d'autres.
En fait, il y a souvent un risque à juger entre effectivement refuser de donner les codes de son téléphone, c'est puni d'un an d'emprisonnement. Mais si on retrouve sur votre téléphone des preuves que vous avez agressé des personnes dépositaires de l'autorité publique, ça c'est 10 ans d'emprisonnement. Du coup,
voilà,
en général, votre avocat va vous dire essaye de mitiger un petit peu le risque. Sachant qu'il est toujours possible pour la police de craquer votre téléphone. Hein, si vraiment ils cherchent à étudier les données qui sont dessus, que vous donniez ou pas les codes, c'est possible.
En fait, c'est simplement pour les personnes qui ont vraiment un dossier complètement lambda, qui n'ont jamais eu de garde à vue, qui ne présentent pas d'intérêt, en fait, pour la police, ou peut-être potentiellement ça sert.
Ça dépend aussi de la déterre de la police. Est-ce qu'ils ont envie de commencer à passer du temps, essayer de décrypter des téléphones, surtout s'il y a plus d'antennes de personnes interpellées. Tout est à juger, en fait.
Et d'ailleurs, oui, par rapport à ça, on en parlait tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait pas mal de possibilités que ça crée toute une arborescence de situations possibles quand on ressort de garde à vue.
Ouais.
Et donc, tu as mentionné la possibilité de sortir libre, celle d'aller en comparution immédiate.
Ouais.
Mais il y a aussi la mise sous contrôle judiciaire.
En attendant une date d'audience ou une audition libre.
Et il y avait une autre chose, moi, qui est apparue, en fait, quand je me suis renseignée, d'autres termes que je ne connaissais pas du tout. Et j'aimerais bien que tu reviennes un peu dessus. C'est l'avertissement pénal probatoire et le classement sous condition, qui sont deux choses, je crois, qui sont à peu près équivalentes. Mais est-ce que tu peux revenir dessus?
Alors, c'est des innovations récentes dans le droit. Ça a été mis en place à partir du 1er janvier 2023. Et... Alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe et c'est plein de subtilités. Mais en gros, si vous êtes déféré au tribunal, vous pouvez passer devant un juge dans le cadre d'une comparution immédiate. Mais vous pouvez aussi passer devant un délégué du procureur dans le cadre de l'avertissement pénal probatoire. En gros, ce qui va se passer, pour être très schématique, c'est que on va vous proposer de reconnaître les faits en échange d'un classement sans suite. Et il va y avoir une espèce de sursis qui va commencer. C'est-à-dire qu'on va vous dire, pendant 2 ans, là, tu as reconnu les faits. Le dossier, il est classé. On va vous demander, en général, il peut y avoir plein de mesures. On va vous demander peut-être de payer des amendes, d'effectuer des tiges, d'effectuer des stages.
Des tiges.
Pardon, des travaux d'intérêt généraux.
Merci.
C'est des heures, des heures de travail pour des assos, des institutions, etc. Mais du coup, en échange de tout ça, on va clore le dossier et vous allez ressortir libre. Mais si vous respectez pas les conditions qu'on vous demande, par exemple payer vos amendes, potentiellement, on va pouvoir rouvrir le dossier. Et là, ça va pouvoir être jugé. C'est-à-dire qu'en fait, vous échappez au jugement, vous échappez potentiellement aux peines de prison, etc., qui auraient pu être jugées. Mais du coup, vous sortez avec une espèce de sursis. Et c'est des procédures où il n'y a pas de défense possible. En fait, vous passez devant un délégué du procureur, vous n'avez pas forcément d'avocat, avocate avec vous. La question n'est pas de si vous avez fait les faits, effectivement, fait ce qu'on vous reproche ou pas. C'est vous avez fait ce qu'on vous reproche, point, vous signez, vous reconnaissez, il va se passer ça, vous allez ressortir tranquillement.
C'est quand même une inculpation, c'est-à-dire qu'on reconnaît.
C'est une inculpation, et il y a une notion de sursis qui est derrière aussi, qui n'est pas évidente. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas forcément
donner des conseils. Oui.
Je sais que la pratique, là, récemment, qui était en vogue dans les Legal Teams, c'était de dire aux gens de ne pas signer pour pas mal de raisons. Moi, je dirais, si les personnes qui écoutent cette émission se retrouvent un jour dans ce cas de situation avec un avertissement pénal probatoire, enfin un passage devant un délégué du procureur, rapprochez-vous d'un une avocat-avocate. Il y a des réunions qui sont hyper bien, de la corde anti-REP à Paris, le mardi soir, donc c'est pour les personnes en Ile-de-France, le mardi soir à la Bourse du Travail. Où, en fait,
toutes les semaines ?
Toutes les semaines. À vérifier sur le site de Rage Collective, qui est... mais ces derniers mois, c'était quasiment toutes les semaines. Et en fait, vous pouvez venir avec vos convocations pour demander en fait, une explication un peu collective des procédures dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Et c'est aussi possible de venir si vous n'êtes pas concerné par ces procédures, si vous voulez en apprendre plus sur ce type de procédure.
Et donc ça permet d'avoir justement une évaluation peut-être un peu plus personnalisée, mm-hmm. parce que c'est toujours des choses compliquées de savoir est-ce qu'on signe, est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on ne reconnaît pas. Ouais. Parce que dans ce cas-là, dans le cas justement de l'avertissement pénal probatoire ou du classement sous condition, c'est pas vraiment une peine du coup qui nous est infligée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Ouais. Donc est-ce que ces faits-là vont être dans notre casier judiciaire ou pas ? C'est aussi des choses... est-ce que tu sais toi si ça reste ou pas dans le casier ?
Bonne question. Là, comme ça, je saurais plus te dire.
Ouais, donc en fait, c'est vraiment important quand même de, ouais. de spécifiquement
aller fouiller. Moi, je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation et j'ai jamais vraiment assisté à ce genre de procédure. Mais on en entend énormément parler parce que ça a été utilisé vraiment très massivement.
Parce que ça permet quoi, en fait, cette sorte de... on va dire, de solutions alternatives à la comparution immédiate, c'est pour faire quoi ? C'est pour qu'il y ait moins de personnes ?
En gros, c'est pour désengorger les tribunaux.
Ah oui, d'accord. Donc, enfin, c'est vraiment quand il y a trop de monde, ouais. autrement.
Ouais, ouais. Après,
il se passe de procès.
Après, là, c'est surprenant parce que ça a été utilisé vraiment massivement pendant la réforme des retraites. Alors même que pendant la réforme des retraites, finalement, par rapport à des mouvements sociaux précédents, mettons les gilets jaunes, il y avait peu de comparution immédiate. Donc... C'est un petit peu surprenant. Mais en tout cas, voilà, c'est des alternatives aux poursuites.
Qui existent, voilà, et qui c'est existent. Important quand même
ouais, c'est important de le savoir.
Et puis ouais. de rappeler toujours en fait, qu'il faut mieux quand même être conseillé par un avocat qui va regarder vraiment. Personnellement notre cas.
J'en suis la preuve.
Donc non. toujours avoir son numéro d'avocat sur son bras, écrit sur son bras ou ailleurs.
Retenir le nom, prénom et le barreau.
Ouais, surtout le barreau, effectivement, faut pas oublier.
Avocate.
Pour en manifester bien, en assurer que tout se passe correctement. Et bah écoute, je pense que on va clore ce sujet donc sur l'antirépression. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir partagé ton expérience et puis voilà ton expertise sur la chose
Oula.
Qui a été construite sur le tas. Bah non, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette formation comme tu dis un peu informelle qui t'a quand même mené à aller dans des choses assez précises. Explorer le droit de manière assez précise. Et puis bon, bah, rappelons toujours quand même que la justice raciste ou la justice de classe, ça existe. Donc il faut en avoir conscience aussi quand on est une personne racisée qui va en manif ou quand voilà, on a un profil un peu moins évident qu'une personne blanche.
Ouais, tout à fait, on n'est pas égaux face à la justice.
Voilà, rappelons-le quand même. Avant de vous quitter pour un mois, chers auditeurs, chères auditrices, je vais quand même vous rappeler juste quelques petites dates à venir, puisqu'effectivement, on avait suivi pas mal la manifestation à Sainte-Soline et toute la répression du mouvement écologiste qui continue, avec notamment la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. Et sachez donc qu'il y a un convoi de l'eau qui est organisé par des gens, on ne dira pas qui, du 17 au 28 août. Donc si vous voulez y participer, donc en vélo ou camion, pour, disons, prendre part à ce mouvement informel, n'est-ce pas ? N'hésitez pas. Il y aura également un festival Les Résistantes début août, du 3 au 6 août, qui va rassembler plusieurs collectifs militants, écologistes, anarchistes, qui vont discuter un petit peu de comment s'organiser face à cette répression dans les mouvements écologistes. Et puis, évidemment, après... aujourd'hui, pour les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutent, un rassemblement, donc Place de la République, à 15h, à une initiative du comité Adama, donc, qui est finalement le deuxième round du 8 juillet, donc, où ça avait été interdit une première fois. On espère qu'on pourra manifester tranquillement cette fois-ci. Mais je pense que c'est un souhait qui va peut-être pas forcément être exaucé.
Ça
donc
paraît bon, plutôt compromis.
Vous allez mieux écouter l'émission avant d'y aller, on va dire.
Super.
Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va vous retrouver tous et toutes en septembre, avec peut-être même quelques changements, on vous expliquera tout ça, et en attendant, pour clore ce sujet sur la répression policière, je vous propose d'écouter 13 minutes 12 contre les violences policières.
Malik Ousekine, Makomé, Amine ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine, le savais-tu ? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger ? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute. La police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « Mais que fait la police ?» Nous répondons
« 18 morts par an, qui ose encore parler de bavure et mentir aux parents ? Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur, 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures, passe-droit systématique, qu'un problème est structurel, la police prend sous serment, la justice est sous tutelle, l'institution par définition est par nature cruelle, la police tue à tue-tête, et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude, lassitude, l'impunité nous rend taciturne, amertume, l'état d'urgence, si t'as pas de fortune, accable dans la tribune, nique la bac au coin de ma rue, flashball sur nos figures, manif et point de suture, massifs sont les bavures, injustice en couverture, Steve, Zigné, des bounades sont pas les procédures, Rémi, Cédric et Adama, la police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne, depuis que les images circulent à travers tablettes et smartphones, pourtant ça fait un bail, ah ouais mon vieux, depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux, excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits, qui foutent le feu dans mes artères, à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les vies.
Devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garipons parmi tous ces types. Mais le bon flic a frappé Geneviève, va-t-il pousser Steve? Ni dans Paris sous les tirs, ils ont fait nous des qui. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malik Ousekine.
Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité des campagnes au quartier confiné cité. Des terres alors prends la rue et crie bien fort. Anticapitaliste, antifa, antiport. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos proies bras. Du kiffé au broc, ça veut briser nos blocs. Remixer le 17 octobre. Viser le pogrom, le racisme est colossal. Police militant antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qu'il y en ait des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espères transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leurs violences deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme, unique forme de réponse. Tant que la justice les soutiendra, et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rangs bleus qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les verres. Je veux pas que mes clips poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, 13-12 NODJA.
Cours, ils ont dégainé les LBD. A chaque manif, j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutilé auprès du capitaine Akab. À tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance.
On parle plus de faits isolés mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche. Il y a déjà 20 ans à Lille, un triste mois d'avril. D'une balle dans la nuque, un brigadier tuerie à Damlaoui. Encore un jeune buté gratis, un flic muté à Nice. Une justice complaisante, toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité l'histoire ne fait que bégayer. Qu'il faut encore batailler pour voir leurs machines s'enrayer.
C'est l'heure de combattre les élites, leurs CID et ceux que nous nommons jetards. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, Schell et Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, je suis abrupt, intrépide. Et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sang.
À l'âme des corps immolés s'embrasse. Peu respire, ce qu'on demande c'est d'avoir une police sans armes. Et le mot que j'ai griffonné dans le sable. Tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blast. Pas de ceux qui rigolent des temps graves. Les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise donc obligé de mener la guerre à notre sort. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure je reste à la ville. Trop d'amis s'y sont marqués par la vie. Les aider le rôle que je donne à mon art.
Ils ne protègent pas le peuple mais l'économie. L'économie gère les tessis comme dans les colonies. Formé au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. 1. Ils nous aiment pas mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes.
Tu reconnaîtras le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les porcs. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les vilsies. Les jeunes qui le tuent et prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Tu t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JD. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire d'Irak c'est pour la paix, le fond la France des colonies. Au front ça tape la garde à vue, la zone c'est ça tu le gardes à vie.
Tout si je suis à Madoukou, mais je suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu. Pour un débit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions.
Ce serait trop facile de crier, mais tout le monde aime la facilité. Major en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amont, sabre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État.
Et à force sont les esquiveurs. Mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes videurs dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne. Le glace fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus bâches. Toujours une explication parle de son bon usage. Tu finis ensemble même s'il est venu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus d'âge.
On tire les cônes, les cierges, la garde mobile. D'autres les appels, les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On prend les armes, le monopole de la violence légitime. On prend les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine et mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se taise car les dossiers s'empilent. Et que les futurs bâtards s'empressent. Paraît que ça recrute dans cette école du crime.
La police tue. C'est pas le sujet que les infos diffusent, c'est la folie pure. Cherche une autre issue, mesure d'étranglement. Les noirs ou arabes en France, ils vivent dangereusement. Contrôle de routine, personne pour secourir. Comment dire à un proche, on a peur pour lui. Bande de keufs pourris, bande de meurtriers. J'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est.
Parce qu'il s'avère servir les villes, c'est fucking cerbère. Ils rendent service à l'élite et sévissant le peuple. Parce qu'ils peuvent tuer impunément, ils sont si fiers d'eux. On devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en quadrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais l'eau de gaz, leur appeler à chaque tard d'or. Tous les flics ne sont que des traîtres, puis j'en bave de rage.
J'suis grillé comme la Gaule dans un survêtement loto. Ou pire que ça, comme De Gaulle dans mon pays, le Congo. Ils jouent les Robocop, j'y ai goûté très tôt. Taser flash bull, sport national, course poursuite dans le béton. Ça me rappelle l'époque de Georgia, oh my man. J'écris allô, Marianne, ce lynchage, j'en ai marre. Vos étoiles sont profanes, ils le tient pas que gendarme. La seule police qu'on aime, c'est celle de Sting Rockstar.
Des nombreux de psychopathes sur des gilets pare-balles. Des brutes épaisses pour protéger le capital. J'ai vu la peur comme outil politique fondamental. On assassine aussi bien avec des armes non létales. Avec un lanceur de balles, on ne fait pas dans la dentelle. Et les bavures ne sont jamais vraiment accidentelles. Au ministère comme à l'antenne, mensonge en permanence. Dans ses regards, ses silences, la police et la violence.
L'ami, je crois que c'est dans l'air, la violence. Faut que t'encaisses quand dans les magnifiques quartiers, la police sera même et rapidement créé l'enfer. Les victimes, on les enterre. Mais qui ose nier le racisme alors pour eux, un meurtre est un traitement exemplaire. Shoot les drones que l'on voit se pavaner dans le ciel. Tellement d'étoiles dans les yeux quand on voit que des gens se lèvent. Dis-toi que les concessions, on n'est pas prêt d'en faire. Faut changer la police et pas dans le traitement.
J'attends que Dessler le prochain que son mandat le complexe. Qui verra les images et me dira qu'il a dans le contexte. Pitié, donnez pas d'armes à des mecs bourrés. Si tu vois un noir courir, c'est que c'est la mer courée. Parce que si tu n'as pas la gueule à Macaulay Culkin, ton meurtre par un bleu zélé sera pas reconnu comme crime. Payer des impôts pour se faire shooter, je suis confus. Imagine, j'ai l'impression de payer l'État pour qu'on me fume.
Qui parle encore de bavure, d'accident ou de maladresse, ils font juste leur boulot. La note s'aggrave et j'en vois trop petit.
qui passe à la caisse. J'allume un deux feuilles à chaque 13 décembre. La rime perce des fonds, ça sera peut-être moi le prochain à me faire descendre. Et fais pas le commis master, rap pour les maudits parias. Bleu marine et rouge chante dans tous les commissariats. Est-ce que tu sais comment ces baltringues procèdent? Les meurtriers sont décorés comme des sapins de Noël.
J'ai pas vu la justice sous leur sapin de Noël. Mais la haine qu'on suscite quand on atteint nos rêves. Desserre les molaires, faut qu'ils prennent des molas pour plumer la volaille, je ferai du bénévolat. Et c'est plus grave, je connais le prix d'une larme. Combien ont pris du grade et combien au tribunal. Non, je simule pas, ma haine est immuable. Mon âme est bien plus clean, même si j'ai la figure sale.
Faciès outrageant, versus monsieur l'agent. Race sera la proie, elle bronzée a toujours bon foie. Sous leur poids, tu meurs lentement. T'es plié, étranglement. Chasse à court, tu seras cobaye. Par choqué par la flicaille, il avait 20 printemps. Voulait voir la mer, dit tu es grand pour le faire taire. La prison l'enterre. Pas de justice, mais toujours suspect. Victime sera le criminel. On reconnaît bien la griffe du colon sous
le
bleu.
Leur méthode est coloniale, le contrôle est racial. Maté l'indigène, le sauvage, l'animal. Chaque jour il te rappelle qu'ici c'est pas ton bled. Que ta couleur est trop laide, que ta présence les obsède. Et tu risques la hogra à chaque fois que tu leur tiens tête. Tu risques un tribunal à chaque fois que t'écris un texte. Tellement ils nous oppressent, tellement je me répète. Tellement ils nous agressent, tellement je les déteste.
Et on a répété, 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 répété. Ça use 13-12 minutes de plus pour vous traiter. Ça fait pas de mal, nous on n'a pas de pare-balles. Ni les moyens de la juge pour enquêter.
Pour enquêter, ouais.
Qui vous raquettez? Des noirs et des arabes et quelques blancs bien endettés.
Bien endettés.
Mandat de dépôt chez les suppôts de Le Pen. Générateur de peine et d'anxiété.
J'entends des all life matter, putain t'y es pas. Bien sûr toutes les vies comptent en fait, c'est même pas un débat. C'est pas dans quel état ça me laisse. Les choses ne peuvent pas changer si tu restes dans ton color blindness. Pourquoi tu fixes mon doigt quand je pointe la lune? Tu capteras peut-être plus vite avec un genou sur la nuque. T'entends racisme à toutes les sauces et ça dégouline dans ton fil. T'es fatigué d'en entendre parler, imagine ceux qui le vivent.
Hey. Tu sors de chez toi, les keufs te contrôlent à tort et à travers. Tout ça pourquoi? Pour un simple regard de travers de bord. Tu te retrouves au poste, là tu dis que c'est pas qu'un cliché. Tout ce que les rappeurs racontent sur les flics. Police, racisme et politique, vaste communicant. La prochaine pavure, tu crois que ça va se terminer comment? Come on, big, j'suis pas né du dernier des camps. Pour moi, le préfet l'allemand, c'est juste le premier des cons.
Les directives viennent d'en haut d'une autre caste. Tombent en cascade sur les képis et les casques. Forcés à encastrer les leurs sans trop de questions. Les dirigeants cassent. La pression précède à l'oppression. La sanction dans les deux camps, c'est ça l'idée. Changer les termes, changer les mentalités. Le peuple doute de sa sécurité alors qu'il la paie. Les forces de l'ordre ont remplacé les gardiens de la paix.
Peut-on pardonner à un flic? Peut-on pardonner le racisme, les violences gratuites, les coups qu'on nous a donnés? Devrions-nous ne pas pleurer les victimes? Accepter le cynisme, fermer les yeux comme ceux qui nous dirigent. La police assassine, étrangle et prend pour cible les mêmes minorités que visent des discours politiques. Y'a pas d'hasard qui tienne ces volontaires et codifiés. La violence légitime n'existe que pour dominer.
Hey Darmanin, check bien ton reflet dans les flaques de pisse de ta vie de chien. Plus ce monde t'a échoué par le trou de balle. T'es qu'un frotteur de bus, un pointeur de plus. On te fera glisser ton facus sec dans les amygdales. Le feu dans les bleus, les yeux dans les yeux. S'il pleut des trottinettes, c'est parce que la rue rejette le non-lieu, la banlieue au milieu. Togo zone commando, rate des villes et radicaux. El pueblo unido déboulonne le comico, comico, comico.